Kels, qui est spécialiste du théâtre, essayiste, collaborateur principal de la revue Mouvement et de France Culture. Et c'est sur la suggestion des spectateurs que nous nous présentons aujourd'hui à la fin, parce qu'on a pensé que c'était plus important d'être un peu... Le retour est dur quand même. Donc, le retour est très dur là. Donc le retour, on s'entend beaucoup, nous, plus que les spectateurs. Ça va? Nous avons adopté l'idée d'un certain anonymat de présentateur, donc on ne s'est pas présenté. Donc,
cette fois-ci, on fait à l'inverse. Donc Georges Banu, qui co-anime les débats, qui est enseignant à l'Université de Paris 3, essayiste, on peut redire ça, ou théâtrologue, c'est un mot qu'on employait.
Essayiste, c'est mieux.
Essayiste, c'est mieux, oui. Essayiste en théâtre.
Essayiste en théâtre.
Voilà, donc c'est le dernier débat de ces regards critiques. Peut-être on dit un petit mot sur les débats précédents. Redire qu'on a donc essayé de développer des thèmes un peu en surplomb. L'idée n'était évidemment pas d'analyser les spectacles les uns après les autres, puisque ça c'est à vous, spectateurs, et à vous seuls de le faire, mais donner quelques outils de compréhension, on pourrait dire des tendances du théâtre actuel, tendances qu'on avait condensées dans cette notion d'auteur de la scène, hein, en disant qu'au fond, les écritures telles qu'elles existent aujourd'hui sont davantage des écritures de la scène que des textes à part entière qui seraient mis en scène par des metteurs en scène. C'est une tendance assez lourde que la programmation de 2004 avait révélée, donc il y a ces contestations, bien sûr. On a vu aussi qu'il y avait pas mal d'écrivains qui étaient présents, mais qui n'étaient pas forcément des écrivains de théâtre. Je pense qu'on pourra en reparler avec Cyril, c'est le cas aussi. Donc l'idée que le théâtre, au fond, s'ouvre à d'autres formes que la forme strictement théâtrale, avec une perméabilité, une porosité des champs et des disciplines. Voilà, et puis on a eu un très beau débat il y a quelques jours avec les acteurs, qui sont vraiment la force vive du théâtre, et il est vrai que dans les spectacles de cette édition, il y avait de magnifiques forces d'acteurs comme ça, qui sont souvent à qui on ne pose pas forcément la question de ce qu'ils font. On a l'impression qu'une fois qu'on les a vus sur le plateau, on a réglé la question, et il nous a paru important de converser avec eux. Voilà pour les
Et enfin, il y a eu un quatrième débat sur la restauration du lien, débat qui était très important, sur lequel peut-on pourra revenir aussi, qui est inspiré de la déclaration de Thomas Ostermayer, qui est placé presque en exergue du festival, que la vocation du théâtre serait aujourd'hui de réunir plus que de diviser, tout en préservant sa force de violence, sa force agressive, et nous avons penser que peut-être dans cette opposition binaire divisée, réunir, on pourrait introduire un troisième terme emprunté à Jean-Luc Nancy, le terme de la mêlée, où au fond les êtres peuvent se sentir solitaires et solidaires, où jouent ensemble la division et la liaison. Donc je crois que ton lapsus ou ton oubli était intéressant parce qu'au fond ça peut permettre donc ça sert un peu d'introduction au débat d'aujourd'hui, car au fond interroger le centre et la marge, c'est aussi une manière d'interroger cette histoire de la division, du lien, de la constitution des alliances, du renouvellement par la réhabilitation, disons, d'un dialogue qui parfois a été interrompu et qui maintenant est de plus en plus soutenu entre des institutions réputées, des institutions centrales, voire patrimoniales parfois, et des artistes qui se trouvaient en dehors et qui parfois souhaitent rester en dehors, qui veulent pénétrer dans l'institution sans s'y immobiliser. Donc voilà, on pourra présenter. Donc c'est Charles Torchman qui est présent ici avec un spectacle très important. Donc pour les deux problématiques, et restaurer le lien et le texte François Bon était ici. Donc Déou, que vous avez vu peut-être, donc qui est un spectacle qui qui traite justement du rapport très direct entre le théâtre et la réalité. François Bon utilisait le terme d'effet de reconnaissance que produit cette pratique, aussi Charlotte Horsman dirige le Centre dramatique national de Nancy-Lorraine et le directeur du festival, d'un festival très important pour la vie théâtrale française, Passage à Nancy, festival plutôt dirigé en direction des théâtres de l'Europe centrale, l'ancienne URSS, etc. Thomas Ostermayer, que, comme on dit, on ne présente plus, mais pourquoi pas. Donc, je pense que c'est peut-être important de revenir aujourd'hui sur le centre et la marche par rapport à ton parcours. On ne va pas éternellement reposer la question du passage de la baraque à la Chaubune, qui était de la marge extrême au centre extrême. Mais enfin, c'est une question importante qui s'est posée pour un artiste comme toi. Donc, et ce qui me semble peut-être une question qui pourra revenir, tu parlais hier au débat sur les jeunes, du rapport que tu avais avec le groupe d'amis qui ont fait le théâtre de Francfort et qui ont intégré maintenant la Schaubühne. Et je pense que c'est assez intéressant de voir comment se constituent des réseaux, des forces de résistance, des stratégies de récupération, d'utilisation et de renouvellement. Donc Ludovic Lagarde, qui est directeur de compagnie, qui est présent ici avec un projet très important autour de Cadio et qui justement témoigne d'une nouvelle pratique de collaboration du festival avec les artistes, car tu as été en résidence pour préparer donc ta présence à Avignon, et ça pose une autre question, cette question des projets un peu prévus à long terme. Donc Vincent Baudrier, donc directeur du festival d'Avignon, qui a proposé justement cette année, pardon, co-directeur. Oui, nous sommes co-animateurs et Vincent est co-directeur. Donc les co-directeurs qui ont proposé cette année une programmation pensée ensemble avec le directeur associé, extrêmement homogène, extrêmement forte, qui témoigne, à mon avis, on peut le dire maintenant pour la fin, d'une sorte de vision du théâtre. Je pense qu'à la fin de ce festival, nous avons le sentiment d'avoir pu affronter, d'avoir pu visiter d'abord un paysage théâtral, de l'avoir affronté. Et je crois que le mérite de ce festival, c'est qu'on part avec beaucoup d'informations, de questions. Et Jacques Ralite disait une phrase que j'ai beaucoup aimée, moi j'étais un peu plus culturel. Je disais, bon, on a beaucoup d'informations, on a visité un paysage culturel, et Jacques Lalithe, avec un vieux fond de combattant, il dit, on a des munitions pour toute l'année. Donc, je trouve assez jolie cette phrase. Ça veut dire que le festival peut nourrir des débats ultérieurs dans la vie théâtrale française, et que je crois que c'est extrêmement important. Et Cyril Test, donc, qui est présent ici, qui est présent dans le festival d'Avignon, avec au pénitent blanc, qui marque la collaboration du festival avec le JTN. Et hier soir, je rencontrais Béatrice Picon-Valin, qui est de ma génération, qui était très fière en me disant, voilà, les premiers de ma classe sont déjà à Avignon. Donc, il y avait une sorte de finalement, d'instigation à poser aussi ce débat autour du centre et de la marge, mais sur ce rapport générationnel, sur le fait comment dans un festival on peut brasser des générations différentes, de Bernard Sobel à Cyril Test. Voilà, donc je te laisse peut-être...
Je rajoute peut-être quelques éléments pour poser la problématique. Ça me paraissait important de terminer cette édition 2004 par un sujet, je dirais, plus politique. Les sujets précédents étaient des sujets, on va dire, d'esthétique, de questionnement comme ça des formes et des tendances du paysage théâtral. C'est vrai que ce débat-ci, il est d'emblée plus politique, et les événements qui se sont passés en 2003 nous ont vraiment poussé à terminer par en disant, voilà, faisons pas un bilan, mais une sorte de petit temps comme ça de suspense, demandant ce que peut l'institution théâtrale pour les artistes. Je crois que ça, c'est vraiment le grand mérite qu'ont eu les événements de 2003, c'est de reposer la question entre les publics, les artistes et les structures qui accueillent les uns et les autres. Cette triangulaire a été au fond un peu laissée pour compte, où on a travaillé avec des outils pendant des décennies qui n'ont pas été réinterrogés, qui n'ont pas été réformés, qui se sont empilés les uns sur les autres. Et il y a là un paysage à la fois très riche. Je crois qu'il faut affirmer que la France a un paysage culturel extrêmement riche, extrêmement inventif, mais que ça ne doit pas pour autant nous faire l'impasse sur les réformes et sur les choses à pointer, les choses à transformer dans ce paysage. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir du pôle centre-marge, ou structure hors structure. Qu'est-ce que c'est qu'être dans une structure? Comment les artistes investissent les structures? Est-ce qu'ils les investissent de manière pérenne, comme dans un centre dramatique? Est-ce qu'ils les investissent de manière ponctuelle, comme une compagnie indépendante? C'est pour ça qu'on a tenu à rassembler des gens extrêmement différents, pour se demander, au fond, qu'est-ce qui est le productif pour l'art, quoi? Parce que c'est quand même ça le fond de la question. Comment l'art peut, dans une structure publique, exister? Il y a des gens aujourd'hui, d'ailleurs, qui ont des points de vue très critiques sur le paysage théâtral et qui disent qu'au fond, on a peut-être mieux en sortir, quoi. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on voudrait aborder avec nos invités. Et peut-être on pourrait commencer par poser une question à Thomas Ostermayer sur lui qui maintenant a une connaissance, je dirais, très nourrie, très riche de la réalité française. Quel regard portes-tu sur ce qui se fabrique en France, quoi, sans forcément le comparer à l'Allemagne, mais quel état des lieux ferais-tu de ce que tu as pu voir des œuvres, des processus dans le théâtre français?
Mais j'ai pas vu si beaucoup. Je vais voir ce soir des jours, mais des où? Mais je viens de dire déjà plusieurs fois que il y a une très très grande différence entre l'Allemagne et la France en ce qui concerne les moyens qu'on a pour faire du théâtre. Nous, en Allemagne, on a un système de théâtre de l'ensemble, dans le sens qu'on a une compagnie de permanente, des acteurs qui ont des contrats pendant 2-3 ans. Alors, on est obligé, on a à la fois obligé et à la fois on a la chance de rester ensemble et penser bien, par exemple, la distribution ou lequel spectacle on fait. Ça dépend aussi de la compagnie et des acteurs qu'on a dans la compagnie. Alors, c'est pas toujours le choix quand on monte une pièce, c'est pas toujours le choix parce qu'on veut absolument faire montrer cette œuvre-là. Mais ça a aussi à voir avec une certaine culture de l'ensemble, dans le sens qu'on veut développer les acteurs, qu'on veut développer le langage théâtral. Ce que veut dire, est-ce qu'on fait une grande pièce avec une grande distribution, avec beaucoup de personnages, ou est-ce qu'on fait une petite monologue pour cet acteur spécial qui est au moment dans une certaine situation dans sa profession, et aussi les moyens pour faire le décor, les ateliers. À la Schaubühne, on a 250 permanentes, 250 gens qui sont payés toute l'année par la Schaubühne. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de théâtres français qui ont un si grand nombre de gens qui travaillent avec des contrats permanents. Et ce système-là qui fait partie de la tradition théâtrale allemande et qui a à voir avec la situation politique des dernières 200 ans. Alors, on a eu des petits pays avant 1870. Beaucoup, je crois, 360 petits pays,
Et par contre, la France a vécu cette idée de la grande nation et aussi d'une centralisation de la culture. Mais en Allemagne, presque chaque petite ville, ou chaque ville avec plus que 50 000 habitants, a un théâtre avec un ensemble. Et ça veut dire qu'il y a un paysage qui nourrit les grands théâtres à Berlin, à Munich, à Zurich, à Vienne, dans le sens qu'après l'école, la plupart des jeunes comédiens vont dans la province et s'entraînent pendant 2, 3, 4 ans et les meilleurs reviennent dans les grandes villes. Mais c'est aussi un entraînement de l'esprit de l'ensemble et un entraînement dans un système de répertoire, dans le sens qu'il joue chaque soir une autre pièce parce que toutes les pièces restent en répertoire. Et tout ça crée un très très différent paysage pour produire et pour faire du théâtre. Je crois que là, il y a la grande différence entre le théâtre français et le théâtre allemand. Ce sont les moyens, et ça se voit pas mal aussi sur la scène. Je crois quand on regarde les décors et on voit bien qu'il y a plus d'argent en Allemagne pour faire les décors, et ça donne aussi une différente esthétique sur la scène. Ça fait plus de questions comment jouer dans les décors. Alors, ça a aussi à voir avec une expression allemande qui s'appelle die Spielweise. Alors, la façon dans laquelle on joue. Alors, quelle tradition on s'inscrit? La tradition de Brecht ou un certain naturalisme, la comédie de l'art, et toutes les façons de comment jouer. Par exemple, quand on voit les décors de Frank Castorf, où la plupart de spectacles, les comédiens sont plus sur la scène, mais ils sont derrière les murs et ils sont filmés avec une vidéo. Ça fait une autre forme, une autre façon de jouer. Alors, il y a un lien entre les moyens, entre l'esthétique du décor et la façon dans laquelle on joue, mais aussi, ça produit aussi un certain ennui de temps en temps, dans le sens que la plupart des metteurs en scène allemands qui sont pas mal travaillent 3-4 spectacles pendant l'année. Alors il y a un certain danger d'une
routine.
Routine, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Et ça, je ne vois pas dans les choses françaises. Mais il faut bien dire, parce que Ludovic, il est à mon côté. Lui, avec ce qu'il fait là, ça a à voir un peu avec ce qu'on fait en Allemagne, parce que c'était un système de répertoire. Une répertoire de trois pièces et un ensemble, une compagnie qui a travaillé ensemble pour plusieurs spectacles.
Pippo Delbono aussi s'inscrit dans cette même logique, avec ici deux spectacles en Avignon, mais on sait qu'il a à son répertoire différents spectacles qui sont visibles dans les différentes scènes en Europe.
Voilà.
Peut-être on pourrait poser la question à Charles Torgemann, qui est de l'autre côté du Rhin, et qui travaille dans un centre dramatique. Alors, tu pourrais un peu préciser ces différences? Est-ce qu'il y a des choses dans ce que dit Thomas qui te font rêver, dont tu te dis ça, il faudrait qu'on puisse l'importer, qu'on puisse le réinvestir dans nos scènes en France?
Ah oui, l'argent. C'est ce qu'il a dit. Non, je...
Moi, personnellement, je suis d'origine roumaine, mais je suis devenu un peu ici le défenseur du théâtre français. Quelqu'un disait... le seul patriote, c'est Georges. Je crois aussi que il y a une sorte de mythification du théâtre allemand, justement parce que le théâtre allemand et le concept institutionnel est extrêmement puissant. on oublie cela, c'est que les acteurs, les metteurs en scène sont globalement intégrés dans des institutions et que dans le paysage français, ce qui intéresse, d'ailleurs, la grande crise des intermittents est aussi très significative de ce point de vue, c'est que ce qu'on préserve, c'est une beaucoup plus grande mobilité. Dans les anciens pays de l'Est, on a vécu tous avec cette stabilité et on a vécu aussi les défauts, on a connu les défauts de cette immobilité. Donc je crois que ce sont deux postures différentes et que parler de l'institution, c'est parler de la contrainte aussi, pas seulement de la liberté. Il y a une certaine sécurité, mais il y a un certain prix à payer. Donc, je crois que peut-être ce qui peut nous intéresser dans ce rapport du centre et de la marge, c'est que si on suppose que l'institution est le centre, c'est la dialectique entre les deux qui fait la force d'un paysage théâtral. Parce que trop d'institutions peut produire donc une certaine rigidité dont Thomas parlait. Trop de mobilité, ça produit un peu de chaos. Donc, voilà, excuse-moi, Charles.
Vas-y, Charles.
Oui, je trouve que la thématique d'aujourd'hui est extrêmement bien choisie, c'est-à-dire le centre et la marge, puisqu'on est... En fait, aujourd'hui, c'est une journée historique. Jean-Pierre Raffarin a utilisé le 49-3 à l'Assemblée nationale pour faire passer une loi sur la décentralisation. C'est quand même une loi extrêmement importante qui va avoir probablement des conséquences sur la vie culturelle dans les régions dont on ne mesure pas encore les effets, peut-être positifs, mais probablement négatifs aussi. Décentraliser le financement des institutions culturelles, c'est quand même choisir un autre centre. Jusqu'à présent, le centre, c'était l'État. C'était l'État qui garantissait des valeurs, une certaine dignité, une certaine ambition, une certaine hauteur de création, en tout cas des garanties de liberté de création, de liberté d'expression. Le fait de déplacer le centre à la marge du centre, puisqu'on est, dans les régions, sans avoir aucun mépris pour les régions françaises, loin de là, le risque de la maîtrise des projets culturels, je dis volontairement culturels parce que dans les régions on parle surtout de projets culturels et pas de projets artistiques, le risque de la gestion majoritaire par les régions des projets culturels peut être une véritable catastrophe. En Allemagne, les Landes ont une puissance financière qui va bien au-delà des régions françaises qui sont elles-mêmes à la périphérie des villes qui sont les principales financeuses de la culture dans ce pays. Ce n'est pas le cas dans les Landes du tout. Il y a une très vieille tradition, très ancienne tradition, qui fait que le théâtre est une institution au même titre, j'ai envie de dire, je ne sais pas si Thomas Ostermayer sera d'accord, mais au même titre que l'école, que d'autres institutions fondamentales. C'est absolument pas le cas chez nous dans les régions où le théâtre est souvent un accident. Un accident qui date depuis 50 ans, mais qui s'est forgé au gré des envies des politiques, un maire, un président de conseil général, une aventure artistique particulièrement remarquée, mais jamais de politique culturelle délibérément orientée en faveur de l'institution théâtrale implantée. Donc, à ce que tu dis, oui, une institution forte peut être sclérosée. On est loin de là, en France. C'est-à-dire, on est loin du risque pour l'institution d'être sclérosée. Vraiment très, 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 très loin. Parfois dans le discours, mais absolument pas dans la réalité économique et financière. Antoine Vitesse disait que... C'est une phrase à méditer, peut-être qu'on peut... C'est le thème du débat. Que le bonheur est dans l'institution. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Probablement ce que vient de dire Ostermayer, c'est-à-dire que dans l'institution, il y a la possibilité de maîtriser un répertoire. Ce qui se présente à Avignon, lui, c'est quand même assez exemplaire. Il travaille sur Wojciech, il travaille sur Nora de Ibsen, il travaille sur Kreutz, il travaille sur un éventail de créateurs qui vont de notre siècle au passé sans aucune préférence idéologique résolument marquée. Il n'y a pas de complexe, il n'a pas de scrupule à être extrêmement ouvert aussi bien sur Brecht que sur Shakespeare, même s'il est plus sur le contemporain. Ce qu'il est extrêmement difficile aux institutions françaises de faire. Ce qui fait que les institutions sont obligées aujourd'hui de se singulariser, d'être dans un système de concurrence pour exister. C'est-à-dire, il faut que je fasse absolument quelque chose qui me remarque, qui me fasse remarquer. Et cette tendance a comme conséquence parfois d'oublier le public. C'est-à-dire d'être en retrait par rapport à la préoccupation quand même majoritaire qui est celle d'être en rapport avec un public qui est là pour entendre Beckett, Shakespeare, Corneille, Molière, Kreutz, Cadio, Bon, etc., etc. Donc moi je crois qu'on est loin du malheur de l'institution en France, on est loin du bonheur encore de l'institution, et j'ai peur que la décentralisation nous amène à connaître des jours assez sombres où les politiques régionaux vont nous demander davantage du divertissement que de travailler sur François Bon et Olivier Cadio. J'ai un petit peu peur de ça. Donc là où nos organisations syndicales, professionnelles, là où les professionnels devraient avoir un discours clair et offensif, c'est sur que le centre n'oublie pas, mais revienne même au centre, et que le ballon revienne au centre, quoi, et qu'on ne le laisse pas trop aux marges, pas aux marges artistiques. Ça, c'est une autre question. Si les institutions françaises, parfois, sont en risque, pas de sclérose, mais de fatigue, c'est qu'elles ne s'intéressent probablement pas assez aux marges artistiques. Mais ça, c'est une autre question. Mais pour s'intéresser aux marges, il faut des moyens, et les marges aussi peuvent trouver du bonheur dans l'institution, puisque c'est là qu'elles peuvent travailler normalement, en fait.
Mais Cyril, vous n'êtes pas dans la masse, c'est que le JTN, c'est quand même une des institutions les plus originales qui existent. Il n'y a pas de JTN dans d'autres pays, même.
Peut-être il faut dire ce que c'est. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Jeune Théâtre National. C'est une structure d'État qui permet aux élèves sortants du TNS et du Conservatoire d'avoir un salaire et de pouvoir être intégré dans des productions. C'est-à-dire, quand ils travaillent sur des productions dans des centres dramatiques avec des compagnies, ils arrivent en quelque sorte avec une part de production, on va le dire comme ça. C'est une manière de les intégrer dans la profession pendant une durée de 3 ans, ce qui est effectivement une façon d'être d'emblée de plein pied dans le centre de l'institution. Là, je crois que c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on a quelques projets derrière soi qu'on est à la marge, quoi. Il y a aussi là des effets optiques qu'il faudrait déjouer d'emblée. Mais c'est intéressant, je trouve, cette idée que la marge, ça pourrait être aussi la marginalisation politique de l'artiste. On n'avait pas du tout évoqué ça en préparant avec Georges, mais c'est vrai qu'en ces temps un peu sombres, on voit ça aussi venir. Nous, on était vraiment dans l'idée
de l'artistique,
c'est là où travailler, au centre ou à la marge. Hein. Et c'est vrai que là, nous n'avons au fond que des gens qui sont au centre. Si on veut, d'une certaine façon, marquer le trait, c'est de ça dont il faudrait parler d'abord.
Donc vous, Cyril, vous êtes dans une situation extrêmement inédite. Vous êtes en JTN, vous présentez un spectacle dans le cadre du Festival d'Avignon. Est-ce que vous avez une réflexion sur le chemin à suivre? Est-ce que vous allez créer une compagnie? Est-ce que vous voulez rester, vous autonomiser, ou au contraire vous envisagez la prise en charge d'une structure qui peut vous servir d'outil de production, etc. Donc comment quelqu'un qui fait ses débuts artistiques aujourd'hui se situe par rapport à cette problématique? Parce qu'ici même, sur le même podium, Jean-Pierre Vincent parlait et signalait une sorte de méfiance, de rejet de la part de jeunes artistes français à l'égard de l'institution, et il faisait la distinction entre les artistes allemands beaucoup plus prêts à assumer les responsabilités de l'institution et des artistes français qui préfèrent rester un peu en dehors, pas de l'institution, mais plutôt en dehors des structures et des outils de production identifiables.
Nous, déjà, on est donc une jeune compagnie, puisqu'elle a 4 ans. Et ce qui, moi, me semble le plus important, après la marge ou le centre, moi, ce qui me semble important, c'est qu'on a besoin de moyens pour faire des processus de création. On nous demande beaucoup de résultats. Et je crois que c'est quand même important de pouvoir avoir les outils pour être énormément et plus dans le processus que dans le résultat. Quand j'entendais Thomas tout à l'heure, il y a cette opportunité-là de pouvoir chercher, et c'est ce qui parfois peut nous manquer en tant que jeune compagnie, c'est on veut très vite voir ce qu'on sait faire. Et que je crois qu'il y a un endroit, et c'est là où ça a été exceptionnel pour nous par rapport à Avignon, c'est que les jeunes compagnies, elles sont encore, comment dire, elles sont loin d'être parfaites dans leur fonctionnement et même dans la création. Et pourquoi il faudra attendre 10 ans ou 15 ans pour commencer à leur donner la parole, alors que là où c'est, je crois, le plus intéressant, c'est le moment où on est au début de quelque chose, qu'on cherche quelque chose et qu'il faut pouvoir le confronter au public. Pour ça, il faut des moyens, parce que c'est un métier et que je crois que c'est pas évident de... Nous, on l'a vu cette année, on a pu travailler avec des moyens, on a pu travailler sans moyens. Et c'est vrai que, quelque part aussi, la disponibilité pour le travail et pour la création n'est pas la même. Alors, vouloir se vouloir dans la marge, je ne sais pas si c'est pas plutôt un cliché en ce moment. Moi, je ne sais pas si je suis dans la marge ou dans l'institution, je ne me pose pas la question. Par contre, je pense que c'est nécessaire de pouvoir trouver des structures qui nous aident et qui nous soutiennent, surtout dans un processus de travail. Parce que, c'est, encore une fois, c'est ce qui nous manque. Et que... oui, c'est important que les jeunes compagnies peuvent travailler en collaboration avec, alors, que ce soit des centres dramatiques ou d'autres structures. Nous, on a le JTN, qui est une, je crois, qui est un luxe pour les jeunes créateurs. D'autant plus que nous sommes quand même un pays, beaucoup d'acteurs, et il n'y a pas d'école de metteur en scène, il n'y a pas d'espace comme ça pour la mise en scène. Et que le JTN, moi, en tous les cas, m'a permis de faire mes débuts aussi en tant que metteur en scène. Et voilà. Je ne sais pas si c'est... Mais je crois que c'est important, oui.
Alors, est-ce que je pose une question, répond qui veut. Est-ce que les centres dramatiques et les scènes nationales, donc pour employer deux labels de la production du théâtre en France, est-ce que ces lieux-là permettent, font droit à cette exigence de durée et de processus dont tu parlais? C'est une question que je pose, hein, à des gens qui sont dedans et des gens qui n'y sont pas. Est-ce que... Voilà, est-ce qu'il y aurait des choses à rêver? Peut-être que ce débat, c'est pas forcément pour dire que les choses vont bien ou vont mal, mais c'est peut-être pour projeter des choses. Ce serait quoi un vrai processus dans la durée, dans une scène nationale, par exemple?
Un vrai processus? Mais ça existe déjà, je crois. Il y a quand même des structures qui le font, quoi. Je crois qu'il faut du temps aussi. C'est-à-dire que nous, on est un peu impatients, les jeunes compagnies aussi, à un moment donné, on veut très très vite les choses. Et je me rends compte que sur les 6 ans de travail qu'on a fait, on commence à avoir un fruit qui apparaît en ce moment. Et il a une valeur parce qu'aussi on a été autonome. Et pour le coup, je pense qu'on sait, on est un peu plus lucide quant à ce qu'on veut demander. Parce que c'est bien beau de vouloir de l'argent, des lieux, mais il faut savoir aussi à quoi s'en servir. Et je crois que c'est aussi un truc que moi j'ai réalisé sur ces 6 ans où des fois je disais, mais les portes sont tout le temps fermées, c'est pas normal, on me laisse pas la parole. Peut-être que si on me l'avait donné 6 ans plus tôt, j'aurais pas su quoi en faire. Donc il y a quand même quelque chose qui est important là-dedans. Je crois qu'on doit tous y passer, quelque part, de cette autonomie et de pouvoir aussi la garder quelque part. Ça me semble important aussi, en tous les cas, pour moi. Ce qu'on peut demander, ben, c'est ce qui est en train peut-être, je sais pas, de se développer. C'est ce que j'ai appris par rapport au festival, c'est ce que j'apprends dans d'autres lieux. C'est-à-dire que on laisse des plages de travail à des artistes sur une durée beaucoup plus longue. Et c'est dans ça que je parlais de processus plutôt que de résultats. Aujourd'hui, en 1 mois et demi, il faut créer un spectacle. C'est bien, on peut y arriver. Mais c'est vrai que si on a le luxe de travailler sur 6 mois, là, ça devient différent. Et là, je pense qu'on peut arriver à proposer des choses qui, moi, me semblent plus intéressantes et plus proches de ce qu'on a envie de dire et de faire, quoi. Maintenant...
Vincent, donc tu prends la direction avec Hortense. Tu connais le festival dans son identité ancienne. Est-ce que cette question donc du rapport avec la jeune génération, avec des artistes qui ne sont pas vraiment intégrés dans les structures, je pense qu'elle est présente dans le festival, qu'on voit des strates différentes et des spectacles de la 25e heure, donc des artistes qu'on découvre jusqu'à des artistes réputés. Comment tu envisages cette relation un peu dialectique entre le centre, car le Festival d'Avignon, c'est un des, disons, non seulement un centre institutionnel, mais un centre nerveux de la vie théâtrale française, donc, et l'émergence de nouvelles propositions artistiques qui ne sont pas toutes liées à des structures bien établies.
Le mot institution, c'est un mot un petit peu étrange. À la fois, on imagine que c'est quelque chose de très figé, de très lourd, d'immobile, de sclérosé. Et c'est un mot qu'on a... Ah, Charles, c'est l'institution que tu es en train de... L'institution qui est en train de s'écrouler. Donc c'est un mot un petit peu difficile. C'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas, nous, toujours, dans ce mot-là. Quand on sait que le Festival d'Avignon, c'est une toute petite équipe, il y a 20 permanents qui travaillent toute l'année, donc c'est la taille d'une grosse petite compagnie, et qu'on aime beaucoup cette dimension-là, cette petite taille, cette grande liberté, cette grande réactivité qu'on peut avoir aux choses, et c'est une chose qu'on veut vraiment cultiver. Le Festival d'Avignon aussi, c'est un endroit un petit peu spécifique, c'est pas au centre, parce qu'on ne sait pas à Paris, la culture française c'est l'État et c'est Paris, c'est pas non plus la décentralisation, donc c'est un petit moment un peu entre deux, qui est, on n'est pas un centre dramatique décentralisé, ça ne dure qu'un mois, on n'est pas non plus au centre, parce que les gens se déplacent pour venir jusqu'à Avignon, donc géographiquement, dans le temps et dans l'espace, c'est aussi un espace particulier, le festival. Par contre, oui, c'est une institution d'une valeur sur laquelle s'est fondé le développement du spectacle vivant en France, de cette idée du service public de la culture, qui fonctionne grâce à des subventions publiques d'État, mais aussi de la ville, de la région et du département. Et là aussi, par rapport à ce que disait Charles Torgemann, la grande liberté du festival, paradoxalement, elle vient de ces subventions publiques croisées et de l'importance de l'État, qui nous rend tout à fait libres par rapport peut-être à une pression politique locale beaucoup plus forte. Et je crois que ce qu'on a voulu faire avec Hortense, et en association avec Thomas cette année, c'est de remettre de la liberté, du souffle, cette idée du risque artistique qui est au cœur de la notion du service public de la culture dans cette institution Festival d'Avignon. Et je crois que notre responsabilité à cet endroit du service public de la culture, notre responsabilité à l'endroit de l'institution, c'est de repousser les limites, c'est d'ouvrir les portes aux artistes les plus inventeurs, les plus créatifs, aux auteurs de la scène, pour reprendre la formule de Bruno. Et je crois que c'est de ça notre responsabilité. On parle du théâtre comme d'un art vivant. Et je crois justement le travail qu'on a essayé de faire, c'est de rendre le plus vivant possible, le plus libre possible, le plus aventurier possible, cette aventure d'Avignon qui quand même reste depuis 58 ans une véritable aventure. Une aventure pour les artistes qui viennent, et le premier d'entre eux, Jean Villard, quand il se lance dans cette aventure-là. Une aventure aussi pour le public, qui viennent de la région ou du reste de la France ou de pays plus éloignés en Europe, c'est venir jusqu'ici, venir découvrir des artistes. Cet esprit d'aventure doit être au cœur de cet endroit, le Festival d'Avignon. Et pour que ça soit vivant, il faut effectivement que ce soit un endroit de confrontation, confrontation d'esthétique, confrontation de pratique, confrontation avec des artistes d'origine, de générations différentes. Et je crois que c'est la base de la vie dans un endroit comme Avignon, c'est justement cet endroit où les artistes vont être ensemble, vont partager cette aventure pendant un mois qui est Avignon, avec des pratiques, des esthétiques, des points de vue très différents. Et aussi pour que le public puisse voyager de l'un à l'autre. Et je pense que c'était, que ce soit en termes générationnels, comme tu l'évoquais tout à l'heure, pour reprendre ta formule de Bernard Sobel à Cyril Test, que ce soit des structures qui soient au cœur du service public, comme des centres dramatiques, comme Charles Torgemann, ou des compagnies indépendantes comme Ludovic, mais que ce soit aussi dans l'espace européen. Et je crois que c'était très important, en tout cas ce festival-là, de rassembler parmi les plus grands artistes européens dans le même temps, dans le même moment, dans le même espace, et que là, il y a une vraie confrontation d'esthétique, des confrontations philosophiques, des confrontations politiques à travers des paroles artistiques, que ce soit même au cœur de Berlin, avec en réunissant au même moment, au même endroit, la Volksbühne de Frank Herzog et la Schaubühne de Thomas. Je crois que là, il y a eu un dialogue entre les œuvres extrêmement intéressantes. Il y a même eu un dialogue entre Frank Karstorff et Thomas Ostermayer, je crois, qui était plus difficile à Berlin et qu'ici ça s'est passé. Je crois que pour moi c'est une des moments forts de ce festival. Il y a un dialogue entre le théâtre hollandais, le théâtre français, le théâtre de Rodrigo Garcia. Et enfin, c'est un endroit de confrontation aussi dans les formes. Je crois que ça c'est aussi très très important. Que des artistes avec des formes, avec des langages, avec des grammaires différentes puissent s'exprimer et se confronter et donner à voir que le théâtre n'est pas une chose univoque, n'est pas une chose figée, mais au contraire une chose extrêmement vivante. Et je crois que c'est ça l'enjeu d'un endroit comme Avignon, et c'est l'enjeu de tous les théâtres, c'est l'enjeu de toutes les institutions, entre guillemets, ouvrir les portes, être inventif, aux nouvelles formes, aux artistes d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
La question justement de l'ouverture des portes et la question un peu du sang neuf.
Et de l'invention, inventer des nouvelles formes de travail.
Inventer de nouvelles formes de travail. Donc, Paul Ludovic, quelle est ta réflexion sur l'importance, disons, en termes un peu anciens, du processus de production sur l'esthétique ? Inventer de nouvelles formes de travail, quelles sont les retombées? Parce que Cyril le disait tout à l'heure, demandons plus de temps, ce qui implique forcément un peu plus d'argent, mais même des maîtres comme Mnouchkine et Brooke, ce qu'ils ont demandé depuis 20 ans, c'est toujours du temps. Donc, toi, quelle est ta position justement par rapport à cette question de l'invention de nouvelles formes de production?
Justement, je voudrais juste... C'est bien de parler de ça parce que le temps qu'on a donné à Brooke et à Mnouchkine, j'aimerais bien qu'on me le donne maintenant. Mais c'est il y a longtemps, hein. Il faudrait recommencer. Non, juste revenir deux secondes sur ce qui vient d'être dit, revenir peut-être à votre sujet juste avant de parler de l'expérience qu'on a partagée, mais c'est lié. Il me semble que marge, centre, pas centre, institution, pas institution. Je ne sais pas si mes camarades seront d'accord, mais au fond, c'est toujours la même question. Qu'on soit dedans, dehors, à côté, c'est un rapport à l'instrumentalisation, c'est un rapport aux contingences, et c'est comment on fait, alors je parlerai plutôt de marge de manœuvre, c'est comment on fait pour avoir de la marge de manœuvre, pour en trouver ou pour en retrouver. Que ce soit, au fond, Thomas et moi, par exemple, qui sont au fond aux deux extrêmes du dispositif, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire... Parler de 250 permanents et de la charbune, nous c'est 25 intermittents. En fait, j'imagine comment Thomas, à l'intérieur de ce très lourd fonctionnement qu'est la charbune, peut toujours repousser les limites de son travail et retrouver de la marge de manœuvre avec les contraintes qu'il a et évidemment la force qu'il a également en même temps. Et comment moi je fais à l'autre extrême du dispositif, là où j'en suis, pour en avoir de la marge de manœuvre, malgré toutes les difficultés qui adviennent quand on est une compagnie en France et qu'on a du mal à monter les productions, que c'est compliqué de fédérer les énergies. Voilà. Donc je pense qu'au fond, c'est toujours la même question. Comment on fait pour avoir de la marge de manœuvre? Comment on fait pour continuer à avancer, pour inventer, pour proposer autre chose? Au fond, c'est des questions qui concernent tout le monde. Au fond, c'est comment on fait pour avoir une marge de manœuvre dans la vie, hein? Voilà, donc ça c'était juste un petit commentaire. Après, que vous dire, ça serait long, mais l'aventure qu'on vient de vivre ensemble avec le festival, pour moi, est vraiment importante. Et puis je suis ravi de me trouver entre Vincent, Thomas, avec Charlie pas loin, parce que au fond, là, tout ça c'est des aventures qui sont fabriquées tout au long de ces années-là. Comment expliquer ça? Disons que, par exemple, le Colonel des Oies est un très bon exemple du parcours qu'on a mené. Le Colonel des Oies est un spectacle qu'on a créé en 97. C'était une mode de fabrication très spécifique de travail avec Cadio. C'était la première fois qu'on essayait de faire passer vraiment la littérature d'Olivier à la scène. Donc on inventait une manière de le faire. On n'avait pas de producteur en 97, on n'avait pas un rond. Et puis on s'est dit, je me souviens très bien avec le prêtre Renaud et Cadio, on s'est dit, bon voilà, il n'y a pas l'argent du tout, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'est dit, on va le faire, on le fait quand même. On le fait quand même, on va trouver un petit lieu à Paris, je ne sais pas où, n'importe où, on va le faire quand même sans argent. Et puis petit à petit, on a trouvé un tout petit peu d'argent, on a réussi à monter l'opération, et puis ce spectacle a tourné 120 fois. Et puis j'avais la certitude, ou en tout cas l'intuition, qu'il fallait le montrer ici à Avignon, pour le sortir définitivement de cette marge, c'est-à-dire pour le remettre au centre du dispositif social du théâtre. Et c'est ce qu'on a fini par faire. Et ça, c'est un exemple de chemin voilà, passionnant. Alors après, concrètement, oui, comment on a fait il se trouve qu'on a eu une chance merveilleuse, c'est-à-dire de réfléchir ensemble au projet avec Vincent et Hortense, de proposer donc effectivement ce dispositif un peu particulier qui n'était pas de venir simplement présenter une pièce, donc un objet de consommation unique, hein, donc un produit, mais de montrer un dispositif de travail, une esthétique, un groupe, une histoire, un lien avec Olivier Cadio et les acteurs et toute l'équipe, et de le faire ici à Avignon. Et ça a été, voilà, la rencontre s'est faite à partir de ça, parce que c'était, je crois, le désir de Vincent et d'Hortense d'aller dans ce sens-là, et on a eu une chance inouïe, c'est de pouvoir être là depuis le mois d'octobre, au fond. C'est-à-dire que, très rapidement, on est venu 3 semaines au mois d'octobre à la Chartreuse travailler, ce qui nous a permis de finaliser l'adaptation de Fairy Queen, de faire une première esquisse de mise en scène, et puis de commencer à discuter avec l'équipe du Festival d'Avignon. Et puis tout au long de l'année, on est revenu en janvier, on est là depuis début mai, on a passé 2 mois de résidence à la Chartreuse, encore 1 mois pendant le festival. Et tout ça nous a permis, évidemment, de fabriquer les spectacles dans des conditions formidables, mais peut-être aussi important, d'avoir la sensation d'être au centre, alors pour le coup, du dispositif avignonnais, c'est-à-dire de préparer avec Vincent Hortense et l'équipe du festival, ce festival d'Avignon 2004, et à tout point de vue. Aussi bien d'un point de vue artistique, du point de vue du lien à Thomas au théâtre allemand, du point de vue évidemment de la politique, de la communication, de la manière dont on allait au fond recevoir les gens. Ce qui a donné une chose quand même très particulière et dont je rêvais au fond, puisque moi qui n'étais jamais venu au Festival d'Avignon, au fond je crois que j'avais toujours rêvé y venir comme ça, c'est non pas y être accueilli mais accueillir le public. Et du coup on a eu vraiment cette sensation quand le festival a démarré d'être au fond... dans cette situation étrange d'hôte, qui fait qu'on a l'impression de recevoir les gens vraiment. Et ça change complètement le rapport au théâtre. Voilà, que vous dire d'autre, si ce n'est que, encore une fois, je veux revenir à ce que disait Thomas, parce que ça m'est très, très cher, ce lien avec Thomas finalement, puis c'est l'occasion de lui dire. Et qu'on parlait tout à l'heure des modèles. Et c'est vrai que moi, par exemple, je ne lui ai jamais dit, mais la première fois que je suis allé à Berlin, j'étais allé à la baraque, donc c'était il y a quelques années. Et quand j'ai vu ce dispositif-là, la qualité du travail, l'énergie des acteurs, la manière dont ils se comportaient, la manière dont ils étaient habillés, la manière dont ils étaient dans la ville, la manière dont on faisait la fête ensemble, la manière dont tout ça se passait, je me suis dit, mais alors il faut absolument qu'on fasse ça en France. Évidemment, retour Paris immédiatement, bon alors comment on va faire? Comment on va faire? Il faut absolument une troupe, il faut une baraque, il faut un dispositif équivalent. C'est pas possible, on peut pas rester dans notre coin à faire peut-être des choses géniales de temps en temps, un projet tous les 2 ans, dans cette bon voilà, à la fois cette beauté et en même temps cette difficulté-là. Et puis ensuite, je suis revenu à la Charbune. Et puis là, Charbune, double choc, effet énorme, pareil, mais alors sur les Champs-Élysées à Berlin, quoi, avec les mêmes, hein, plus nombreux, plus forts, plus d'argent. Et puis ce même sentiment d'émerveillement, de puissance, comme ça, de force esthétique. Puis je reviens à Paris, alors là, c'est bon, comment on fait, quoi? Comment on fait? Il faut aller sur les Champs-Élysées, est-ce qu'il y a un théâtre? On va s'en faire construire un, il faut trouver 3 millions de dollars. Et puis ensuite, ça décante, et je me dis, mais c'est pas possible. Alors qu'est-ce que c'est le modèle de troupe en France? Comment on a fait? Comment on en est arrivé là? Louis XIV, le prince, les troupes à la française, qu'est-ce que c'est? 10, 12 acteurs maximum, ça marche pas vraiment très bien. La comédie française, pas possible. Alors, et puis d'un coup, on se rend compte que c'est pas le modèle français. Et donc ça sert à rien d'essayer de le copier. Par contre, ça reste en mémoire. Et puis je me dis, qu'est-ce qu'au fond, qu'est-ce qu'on peut prendre de ça? Comment on peut être quand même influencé par ce qu'on a trouvé beau? Et puis le ramener dans nos pratiques. Et puis moi, depuis longtemps, je suis sur des idées de compagnonnage, de fidélité, de pelote, et puis de parcours esthétique. Et puis je me dis, bon voilà, on va aller jusqu'au bout du dispositif et puis on va inventer un système de répertoire. Et on va faire une très grosse baraque à la Chartreuse. Et tout d'un coup, ce système de répertoire, de permanence, de travail, de lien au travail, et ben ça invente quelque chose d'autre dans nos rapports au travail avec les acteurs, les techniciens. Et puis ça voilà. Et donc du coup, tout ça, c'est des influences. C'est une longue histoire d'influence entre l'Allemagne et la France. Et au fond... on est accueillis là-bas, ils le sont ici, j'imagine que ça doit travailler, et puis entre l'indépendance et l'institution, voilà, ça frotte, ça se retrouve. Voilà.
Juste une petite précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le passage de la baraque de Thomas à la Schaubühne, et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur comment une institution doit rester vivante. La baraque, donc, c'était un gros algeco dans lequel Thomas fabriquait du théâtre avec sa bande de copains, mais qui était accolé et qui dépendait du Deutsches Theater, qui était la grande institution classique de Berlin, c'est le plus proche peut-être de la Comédie française, pas seulement dans le fonctionnement, parce que ça, tous les théâtres allemands fonctionnent comme la Comédie française, ou plutôt le contraire, la Comédie française fonctionne comme les théâtres allemands. Mais en plus, dans le répertoire, le Deutsches Theater était le théâtre où on montait les grands classiques du répertoire allemand. Et le directeur de l'époque avait donc invité Thomas dans une petite baraque, dans un gros algeco, pour fabriquer du théâtre à côté de cette institution. Et c'était un bon exemple de comment une institution la plus classique de Berlin et d'Allemagne avait pu permettre à une jeune équipe de créer et de faire justement autre chose. Et peut-être, voilà.
C'est ça ? C'est vrai. Oui, juste pour rajouter deux, trois choses. En ce qui concerne le centre, parce que là, à la Schaubühne, on est vraiment au centre d'une grande institution ou d'un théâtre institutionnalisé. J'aimerais bien parler un peu des contraintes aussi, parce que j'ai trouvé pas mal cette remarque de Georges Panu qu'il y a aussi beaucoup d'avantages dans le système français. Je viens de raconter les contraintes de la distribution et les contraintes d'une compagnie. Alors moi, je travaille avec un grand parti de mon compagnie depuis 1996. Alors ça fait déjà 8 ans maintenant. Et il y a des comédiens qui sont avec moi et qui ne jouent pas forcément tous les grands rôles, qui ne sont pas forcément des protagonistes. Alors, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui sont avec nous, aussi jeunes que nous, mais qui doivent s'habituer à le fait qu'ils ne vont pas être les protagonistes. Même si on essaye de faire jouer presque chacun des grands rôles, il y a des moments où ça fonctionne mieux pour l'un que pour l'autre. Et ça crée une grande tension dans la compagnie. Et c'est très difficile de rassembler permanentement les gens et réunir l'esprit de la compagnie. C'est un des exemples. L'autre exemple, c'est on a eu un coupe d'argent de 1 million d'euros de la ville. Et quand on a 250 coupes.
Une suppression, oui.
Quatre.
Une suppression.
Une coupe budgétaire, oui.
Coupe de subvention. Non, une coupe de subvention de 1 million d'euros. Et c'est beaucoup parce que la plupart de l'argent qu'on reçoit, c'est pour payer les permanentes. Alors, il reste un très petit chiffre pour la production artistique. Alors, il fallait réduire le nombre de productions. L'année prochaine, on fera moins de productions. Et aussi, c'est ce qu'on a fait. On a fait réduire tous les salaires de tous les gens qui travaillent pour la Schaubühne. Et dans ce moment, moi, je suis devenu, pour les 250 gens qui travaillent là-bas, je suis vraiment devenu un directeur d'entreprise comme chaque autre directeur dans l'industrie, qui est le mec qui coupe les salaires et qui fait qu'on peut plus faire des vacances en été. Et voilà. C'était fait pour continuer le travail de la Schaubühne. Sinon, si on n'aurait pas fait ça, On aurait dû faire sortir un tiers des gens de la Schaubühne, dans le sens qu'ils sont plus engagés permanentes. Alors on a pris cette décision pour tenir les gens, pour qu'ils puissent tous rester salariés. Et pour un technicien, n'importe de quel genre, dans la répétition, ou même les comédiens, moi, je reste le mec qui a réduit les salaires. Alors, c'est ça la tension dans la salle de répétition. Ce sont plus les questions artistiques. Ce sont des questions très, très simples, matérielles. Et là, je me suis dit, on se demande pas mal pourquoi on reste à la tête d'une institution dans le moment où moi, je viens de travailler à Vienne pour le Burgtheater, c'est le paradis au niveau de matériel, c'est pas le paradis au niveau de l'esprit de théâtre, mais quand même. Alors, je pourrais pas mal faire ma vie artistique sans être responsable pour un si grand nombre de gens. Et là, il y a le contrainte, et là, il y a le dilemme entre l'artiste, entre les directeurs. Et ça prend une grande partie de l'énergie artistique. Alors, au centre de l'institution, c'est pas le centre de la subvention matérielle le plus haut, mais c'est aussi au centre des contraintes d'une institution et aussi quelque chose qu'il faut dire, tout le monde, tous les professionnels allemands, les critiques, les journalistes, ils savent tous combien d'argent nous avons, ils savent tous quel merveilleux bâtiment on a. Alors, il y a une grande jalousie. Il y a, surtout quand on est si jeune. Parce que ce n'est pas évident, c'est ce que vous venez de dire, qu'en Allemagne, les jeunes prennent les têtes des institutions. C'est quand même une exception. C'est ce que moi j'ai fait à la Schaubühne. Toutes les autres ne sont pas si jeunes. Hein.
Mais vous êtes tous les deux une exception, et Vincent et.
Voilà,
et...
voilà.
Donc, c'est l'exception française, voilà. Et l'exception allemande.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça crée cette jalousie, ça crée des grands reproches dans la critique, des grandes difficultés qui restent. Et c'est ce que je viens de raconter hier sur l'autre podium aussi, la façon dans laquelle on a réglé notre travail, les salaires égaux, et les autres questions. Ça aussi fait que la plupart des gens veulent bien que ça ne fonctionne pas parce que ça met en question leur propre façon dans laquelle ils travaillent. Alors, le plus long ça reste, le plus difficile, c'est pour eux de supporter ça qu'une organisation comme ça peut survivre. Parce que si quelque chose fonctionne comme ça, toutes les autres institutions sont mises en question avec les directeurs royaux, quoi.
Moi, je voudrais faire une petite remarque à propos de ce que tu viens de dire, ce qu'a dit Charlie. Je pense aussi que la responsabilité d'un homme de théâtre, de certains hommes de théâtre, pas de tous, c'est aussi de penser l'institution. De penser l'institution comme un organisme vivant, comme un organisme qui assure donc les forces centrifuges et les forces centripètes, parce qu'au fond c'est ça l'institution. Donc. Et que au fond deux grandes figures emblématiques, c'est Villard qui est important pour son esthétique, mais aussi pour la manière dont il a pensé Chaillot, parce que la troupe de Villard, c'était la première troupe où les acteurs étaient payés avec un salaire égal, et que l'autre figure emblématique que j'ai connue de plus près, c'était Antoine Vitesse, pour qui, comme pour toi, la réflexion sur l'institution était aussi importante que la réflexion sur sur les spectacles. L'exemple vivant de Vitesse, c'était qu'ils pensaient le matin ensemble, on était ensemble pour penser l'institution, ils ne prenaient pas un outil qu'il avait hérité et qu'il voulait le laisser en état. Donc, d'une certaine manière, une autre question que ça pose le centre, c'est qu'on hérite des outils. Donc, la Chaubune, tu as hérité de la Chaubune, et Vincent, tu hérites d'Avignon. C'est la grande question, c'est comment travailler avec l'identité héritée et le renouvellement de cette identité. Et je crois que peut-être la responsabilité des gens qui prennent la tête de ce type d'outils de production, c'est aussi de s'inscrire dans la continuité et en même temps de lui donner une nouvelle vie.
Et continuité ne veut pas dire répétition.
Non, justement. Là.
Je crois que l'héritage d'Avignon, c'est le comportement du public, c'est la richesse du public. L'héritage d'Avignon, c'est cet esprit d'aventure dont je parlais tout à l'heure. C'est cet esprit-là qui a, je crois, initié cet événement qui dure depuis 58 ans. Mais effectivement, ce n'est pas dans la répétition. Je crois que pour être le plus fidèle possible, il faut être le plus vivant possible, garder l'esprit pour le faire perdurer. Et il y a une question qu'on s'est posée avec Hortense au moment où on a commencé à réfléchir à un projet pour l'avenir d'Avignon, c'est effectivement comment faire que ce moment de rassemblement des spectateurs, des artistes, pendant 3 semaines au mois de juillet, soit encore possible dans les 10 années qui viennent. Alors que, par exemple, le modèle d'Avignon d'il y a 25 ans, qui était réunir des grands artistes français et internationaux, de la danse, du théâtre, des auteurs contemporains, des acteurs classiques, des acteurs connus, des acteurs inconnus, c'est devenu le modèle de la programmation de la plupart des scènes nationales, les centres dramatiques français aujourd'hui. Il y a 25 ans, il était très rare de voir un spectacle étranger dans un centre dramatique. Aujourd'hui, on voit des spectacles ouzbeks ou tatars dans le centre dramatique de Charles Tangeman, ce qui est magnifique. Donc, qu'est-ce qui va motiver quelqu'un qui habite à Nancy de venir jusqu'à Avignon, alors qu'il peut trouver à Nancy cette variété, cette richesse qui va lui permettre de vivre pleinement sa vie de spectateur. Donc c'est ces questions-là qu'on s'est posées pour dire voilà comment on va continuer de faire qu'Avignon est un moment important d'expérience de spectateur et un moment important de partage de l'expérience de spectateur. Voilà, mais c'est le projet que l'on a proposé et notre réponse, on verra si elle est bonne, c'est notre réponse à cette question-là.
Ce que tu viens de dire me confirme complètement une intuition que j'avais en préparant ce débat, c'est qu'au fond, il y a eu dans le paysage culturel, sur les 20 dernières années, une sorte de festivalisation des outils. Hein, c'est-à-dire que tous les lieux sont devenus, en puissance ou en acte, des petits festivals, avec l'esprit festival, le temps festival, l'effet festival, ce qui te fait dire qu'effectivement, dans les centres dramatiques, on voit beaucoup de choses qui sont passées par Avignon, ou dans l'esprit de ce qui a pu se passer à Avignon, ou au Festival d'automne, notamment les deux grands festivals. Alors la question qui effectivement se pose, et que tu viens d'amorcer, mais qu'on pourrait peut-être reprendre, c'est qu'est-ce qu'on fait d'Avignon? Est-ce que ça veut dire que du coup Avignon a comme mission de se recentre dramatiser, c'est-à-dire de redevenir un endroit de centre dramatique pour les artistes dans la durée? Je pose la question plus directement encore. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'à l'année, des compagnies vraiment investissent le lieu, comme elles investiraient un lieu à Nancy ou à Toulouse? Et puis alors, à rebours, je m'adresse là plutôt à Charlie, qui m'a glissé à l'oreille, attaquons les centres dramatiques. Alors, je lui renvoie la question. Qu'est-ce que ça voudrait dire que dans les centres dramatiques, il n'y aurait pas et qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que c'est pour toi le chantier à ouvrir pour que les centres dramatiques passent eux aussi à une étape suivante?
Je vais rebondir sur la question. En fait, Ostermayer a posé une question assez centrale sur qu'est-ce que c'est qu'un directeur de théâtre? Un metteur en scène, pardon, directeur de théâtre. En fait, il a posé la question de la schizophrénie. Ce qu'il a dit, c'est « je suis schizophrène ». Je suis directeur de théâtre, je suis obligé de réduire les salaires des salariés, et en même temps, je suis metteur en scène, je suis obligé de me supprimer à moi-même les moyens dont j'ai besoin. Alors, il y a deux façons de supprimer la schizophrénie. C'est-à-dire, on partage, il n'est plus directeur de la Chaubune, il devient metteur en scène, indépendant, et il y a quelqu'un qui ne sera pas schizophrène, donc il ne sera pas artiste, et qui va diriger la chaire au Buneux en confiant des mises en scène à un metteur en scène, X ou Y, des jeunes, des vieux, des moyens, des femmes, des ouzbeks, des tatars, et puis ça marchera bien, peut-être. Moi, je pense que la schizophrénie, elle est extrêmement utile parce qu'elle permet à l'artiste d'inscrire ses créations dans la gestion. Et les inscrire dans la gestion financière, c'est les inscrire dans la gestion politique. C'est se dire, ce que je fais, je le fais avec tel moyen. Et un théâtre, c'est pas déconnecté du réel, et c'est aussi une entreprise. Donc moi, je trouve que la schizophrénie, elle a du bon, et que les artistes doivent rester directeurs de théâtre. Alors, sur les centres dramatiques, je crois qu'on... Moi, je vais dire une banalité, mais elle est bonne à répéter. Un théâtre, c'est fait pour faire du théâtre. Or, les centres dramatiques, depuis quelques années, ont eu une tendance à se... Alors, c'est une expression qu'après, il faudra que j'explique, mais à se scène nationaliser. C'est-à-dire qu'ils font avant tout des programmations, et c'est pas qu'il y a moins de créations, il y a des créations. Mais les lieux ne sont plus réellement des lieux exclusivement consacrés à la production de théâtre et à la création de théâtre. Par exemple, dans les centres dramatiques nationaux français, il y en a 27 à peu près authentiquement centres dramatiques, il n'y a plus vraiment de métier de maquilleur. Il n'y a pas un seul maquilleur permanent. Il n'y a pas un seul costumier permanent. Tous les métiers du théâtre ont disparu dans les centres dramatiques. Et on est davantage dans la demande de subventions que dans la réalisation de missions. Ça veut dire que le pouvoir, celui qui nous subventionne, au fond, celui qui donne de l'argent public, ne nous dit pas, voilà, nous aimerions, monsieur X ou Y, voilà, monsieur Ludovic Lagarde, vous allez prendre le centre dramatique de X, et nous vous demandons, il veut pas, ouais. Et nous vous demandons de faire du théâtre de répertoire, de monter Ibsen, de monter Shakespeare, de monter Cadio, de monter du théâtre pour le jeune public, pas vous tout seul. Mais voilà la mission que nous vous donnons, une mission des services publics et les moyens qui vont avec. En fait, le ministère de la Culture et les collectivités locales ne nous demandent pas ça. Elles nous disent en gros, faites ce que vous voulez, vous êtes un artiste, donc vous devez être génial si vous êtes un artiste, et vous allez faire une œuvre. Donc faites votre œuvre. Et il y a eu comme ça, à mon avis, une déformation perverse de la direction de ces outils qui font que les metteurs en scène font leur œuvre. Alors il y en a qui font des œuvres géniales, mais je trouve qu'on n'est pas là pour faire des œuvres. Je crois qu'on est là pour réaliser des missions. Ces missions ne nous sont pas données puisqu'elles ne sont pas définies. Le ministère de la Culture et ceux qui nous donnent l'argent des citoyens ne nous donne pas réellement de mission. Elle nous oblige à demander des subventions pour ceci ou cela. C'est assez pervers, cette chose-là, que nous soyons en état de demandeur, alors que celui qui devrait être demandeur, c'est celui qui nous donne une mission au sein de la République. Mais on devient comme des organismes privés qui demandons, ben voilà, j'ai un petit projet là-dessus, j'aimerais inviter une compagnie, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors qu'est-ce que devraient faire les centres dramatiques aujourd'hui? Moi, j'ai répondu hyper rapidement à Latarger, pardon, je ne me rappelle plus son prénom, excusez-moi, à Bernard Latarger, qui a été chargé d'une mission sur le spectacle vivant. J'ai répondu avec plaisir à cette mission parce que je la trouvais intéressante. Et il disait, qu'est-ce que c'est qu'un centre dramatique? Moi, je trouve qu'un centre dramatique national aujourd'hui, un théâtre de région aujourd'hui, ça devrait être un théâtre, bien sûr, qui a des moyens, beaucoup plus de moyens que ceux qu'il n'en a, qui devrait avoir des salles de répétition, des outils de fabrication de décors, des lieux où on peut accueillir des compagnies en répétition, mais surtout, surtout, que le lieu soit dirigé par un artiste, mais qu'on y associe de façon quasi obligatoire, ben c'est l'artiste bien sûr qui s'y associerait, qu'on y associe des artistes, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres metteurs en scène inscrits dans ce bâtiment, qu'il n'y ait pas un metteur en scène responsable du bâtiment, mais qu'il y ait un directeur metteur en scène, mais qu'autour de lui, il y ait des metteurs en scène sur la durée du contrat, pas 6 mois, pas 3 mois, pas 200 000 francs d'aide à une production, non, sur les 3 ans du contrat, qu'il y ait des metteurs en scène qui soient associés, que des auteurs aussi soient associés, puisqu'ils sont au cœur du processus de fabrication théâtrale. On a quand même besoin de poètes à l'intérieur de nos établissements, des écrivains, ça peut être des écrivains, ça peut être des peintres, en tout cas que d'autres artistes que le metteur en scène soient inscrits dans la durée au sein de l'établissement. Ce qui manque, c'est ce que disait Cyril tout à l'heure, il manque à des compagnies ou à des jeunes gens la possibilité de travailler dans la durée sur des terrains de laboratoire, de se planter, de chercher. En tout cas, on est là pour ça. On n'est pas là simplement... On a un problème, les centres dramatiques, c'est qu'on est là pour réussir. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on est là pour réussir à tous les coups, pour remplir toutes les cases. La case jeune public, la case brillante, la case étrangère. Il y a comme ça, comme des cases. Et ça, il y a un truc qui ne va plus. On est bien obligé maintenant de créer comme des équipes où les gens sont pas forcément, n'ont pas forcément la même idéologie artistique, sont pas obligatoirement dans les mêmes esthétiques, mais en tout cas, soient là ensemble, et un regard clair sur le budget, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne voient pas non plus le fonctionnement du budget. En tout cas, je pense que si les centres dramatiques ne se reposent pas la question des directions, du sens de ce qu'ils font, de l'association avec d'autres metteurs en scène, de la place des écrivains dans le processus de fabrication, des métiers du théâtre, des missions à demander, bon, ben, je crois qu'on va un peu se planter. Et les étrangers aussi. Alors, il l'a dit, c'est bien, mais j'étais très content que ce soit Vincent qui le dise. Je pense que dans nos théâtres, on ne doit pas que parler français. Il n'y a pas que la langue française sur nos plateaux, et moi je trouve formidable qu'on puisse entendre effectivement aujourd'hui des langues étrangères sur nos plateaux. C'est absolument capital. Moi j'habite, je suis frontalier de Ostermayer, et je me dis, mais c'est nul, je ne parle même pas allemand. C'est nul. Il parle français, lui, vous avez vu? Moi, je suis incapable de parler allemand. Si je peux lui dire quatre vers de Goethe, c'est tout, je les connais. Es schlug mein Herz geschwind
zu. Est-ce que, justement, peut-être avant de donner la parole au public, est-ce que, justement, peut-être qu'on approche un peu de la fin, est-ce que l'originalité du festival de cette année ne vient pas aussi de ce mode de fonctionnement tout à fait inédit, pensé, qui est au fond, sans revenir à la fameuse dialectique, c'est-à-dire qu'il y a eu dans le Festival d'Avignon un directeur artiste, Jean Villard, il y a eu ensuite de très longues années un directeur programmateur, un directeur producteur, et que moi je pense qu'une des réussites du festival de cette année vient du fait que Vincent, Hortense et Thomas aient pensé cette édition du festival, c'est une sorte de double présence des deux termes, et que l'année prochaine, il y a une autre couleur, c'est-à-dire que ni l'artiste associé est là pour intervenir, mais pas pour signer la direction du festival. Thomas m'a dit une chose que j'ai beaucoup aimée, il m'a dit, cette programmation est faite vraiment à toi. Mais donc, ce qui va changer, c'est que c'est lui qui va changer. Parce que l'année prochaine, il y aura une autre couleur. Et je crois que, par rapport à ce que tu disais, le Festival d'Avignon propose un mode de fonctionnement extrêmement inédit. De même que Thomas avait proposé l'idée de la direction avec Sacha Valls. C'était un mode nouveau. C'est que repenser le centre, c'est repenser aussi le mode de fonctionnement du centre.
Juste en toute petite réponse et aussi en réponse à Charles Torgeman, moi je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Charles Torgeman sur la nécessité que l'artiste doit être schizophrène et que l'artiste doit être à la fois bâtisseur d'une œuvre et en même temps chef d'entreprise. Je pense que c'est peut-être un des problèmes du système français, c'est que pour avoir des moyens de production importants, un artiste, un metteur en scène aujourd'hui doit être aussi chef d'entreprise. C'est pas le même métier. C'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas les mêmes enjeux, et on a vu beaucoup d'artistes oublier un peu leur force de création, leur force artistique, parce qu'ils sont devenus chefs d'entreprise. Il y a un exemple, moi, qui m'intéresse, il y a quand même une génération, il y a un pays en Europe aujourd'hui où il y a une génération d'artistes absolument formidable au niveau de l'invention des arts de la scène. C'est la Flandre, c'est une toute petite région, c'est plus petit qu'une région française, et là, il y a une génération avec des artistes extrêmement différents dans leur esthétique, dans leur pratique, dans leur questionnement. Alain Platel, Yann Pham, certains ont découvert Yann Lowers au festival, une génération avec Sidi Larbi Cherkaoui qui arrive, Luc Perceval, Johan Simon qui est pas loin, et ce sont des artistes qui arrivent à avoir une véritable maturité dans leur langage artistique, parce qu'ils ont été extrêmement aidés par des subventions publiques, mais sans avoir la responsabilité de gérer, de diriger une entreprise qui s'appellerait un théâtre. Ils dirigent une compagnie, donc ils ont quand même ce rapport à la réalité dont parlait Charles Torgeman à l'instant, c'est-à-dire qu'ils ont des subventions et ils doivent monter des productions, ils doivent engager des personnes, mais tout va pour la création, tout va pour la recherche d'un langage théâtral, et je crois qu'à force de travailler et d'être extrêmement concentrés sur leur grammaire artistique, sur leur propre langage. Au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, ils arrivent à une maturité, à une invention, une réinvention des arts de la scène qui me semble extraordinaire. Et je crois que le système français, pour certains, ça fonctionne, mais ça ne peut pas être systématique. Et pour beaucoup, ça ne fonctionne pas. On a vu beaucoup d'artistes français perdre leur génie artistique dans cette mission de chef d'entreprise. Nous, on a fait une réponse, c'est la nôtre pour le Festival d'Avignon. On a dit effectivement comment repenser la place de l'artiste au cœur de l'institution Festival d'Avignon. Et on a souhaité, dans cette première étape avec Thomas, que l'artiste soit au centre, mais au centre en tant qu'artiste. Donc Thomas n'a pas la responsabilité des 600 employés du Festival d'Avignon, il n'a pas la responsabilité des gradins, des lieux, des climatisations, il n'a pas la responsabilité de l'équilibre un petit peu de la programmation, il n'a pas le dialogue avec les tutelles, avec les collectivités publiques, avec les syndicats. Il est là en tant qu'artiste, et c'est en tant qu'artiste qu'il a irradié cette programmation, irradié ce festival. C'est les questions de son œuvre, les questions de sa pratique théâtrale, qui ont influencé une programmation et qui ont donné cette couleur au Festival d'Avignon 2004 en tant qu'artiste et pas en tant qu'autre chose.
Je veux juste rajouter quelque chose dans le sens de ce que dit Vincent. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de marge de manœuvre. Or, aujourd'hui, prendre la direction d'une institution en France, pour moi, en tout cas, interroge ma responsabilité d'artiste. Je m'explique de ça parce que je faisais un petit signe quand je parlais pas de son dramatique, mais c'était une plaisanterie. C'est-à-dire, c'est juste l'idée que je dois vraiment me responsabiliser par rapport à cette responsabilité-là, qui est fondamentale pour moi. C'est la question de ma marge de manœuvre politique et artistique mélangée, et que moi, mon sentiment en ce moment en France, c'est que si moi j'allais à l'intérieur d'institution directement en ce moment et que j'acceptais cette responsabilité, j'aurais du mal à être en phase avec cette responsabilité-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me ferais, justement, mon centre se ferait dévorer très rapidement. Donc, ça ne veut pas dire que je le ferai pas. Je le prépare, au fond, je ne fais que ça. C'est de préparer ça. J'ai l'impression, et grâce, justement, à la manière dont on a travaillé avec le Festival d'Avignon cette année, d'avoir, au fond, bâti une sorte d'institution utopique éphémère. C'est d'essayer, alors c'est bizarre, non pas d'essayer tout de suite d'inventer autre chose à l'intérieur de l'institution telle qu'on l'entend, c'est-à-dire un outil, une structure fermée comme ça, mais au fond de préparer à côté, dans l'indépendance, enfin semi-indépendance bien sûr, au fond des modèles possibles d'institutions pour demain. Faudra-t-il encore les inventer? Est-ce qu'on pourra le faire? J'en sais rien. Peut-être ça passera par la réforme d'institutions déjà existantes, peut-être de nouvelles institutions, mais c'est une manière de préparer ça. Et moi, ça me semble très important. Juste en revenir pour ce que vous disiez tout à l'heure, Georges, c'est que quand vous citez Villard et Vitesse, ce sont des gens qui ont inventé des modèles à partir de rien. Et que c'est pas un hasard si vous les citez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui naît là, il y a une continuité entre les deux, effectivement, mais il y a une naissance. Et que la question qui nous est posée aujourd'hui en France est un peu différente, et vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comment on hérite et on transforme. Et ça, c'est une question qui est loin d'être réglée.
Alors, peut-être une dernière question à Cyril. Comment, par rapport à cette question, comment vous situez? Est-ce que vous avez un projet commun? Est-ce qu'un projet personnel? Est-ce que la compagnie pense s'allier avec un centre dramatique? Parce que je pense que c'est intéressant de voir comment une jeune compagnie réfléchit sur sa meilleure manière de s'inscrire dans un réseau qui, si mobile soit-il ou si figé soit-il, il existe quand même. Et ensuite, si vous avez des questions, on est là pour voir.
Juste une chose, en fait, déjà, on a créé cette compagnie parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un système qui, moi je l'ai vu au Conservatoire de Paris, on ne nous apprend pas, mais même je crois que c'est quelque chose, c'est dans notre culture aussi, c'est par défaut en fait, on se retrouve à travailler en groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un modèle pas mal carriériste, moi je l'ai vu dans des écoles, et nous on s'est dit on est fragile, on fait pas le poids, si on veut, on est en face d'organisations qui sont très sophistiquées. Et si nous on a envie de prendre la parole, il faut faire une organisation sophistiquée. Donc moi je rejoins Ludovic aussi dans cet endroit-là, c'est notre meilleur armement, c'est le regroupement de gens avec qui je travaille. Et je veux pas me sentir justement déjà en marge de ces gens avec qui je travaille, puisque c'est des gens qui construisent et l'organisation de la compagnie et à la fois les spectacles. Bien sûr qu'on aimerait pouvoir s'allier à des gens qui peuvent nous aider et continuer à travailler dans des conditions décentes. Après, moi je rejoins un petit peu aussi Vincent, c'est ce qui fait peur, c'est qu'il y a des choses dont moi je ne suis pas capable, je veux pas prendre la responsabilité. C'est déjà dur de prendre une responsabilité de monter un spectacle avec des gens. Il y a des choses qui sont un peu loin encore aujourd'hui pour moi, parce que peut-être je suis encore jeune et que voilà, je comprends pas tout dans les systèmes de production et toutes ces choses-là. Et il y a des choses, je crois, qu'on doit pouvoir, en tant qu'artiste, se préserver de ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent le théâtre, qui se mettent à la peinture ou qui vont faire d'autres choses, parce que justement, on passe tellement de temps à vouloir construire des productions qu'on en oublie un petit peu ce qu'on a envie de raconter après. Moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Ça me fait très peur. Donc, la première chose que j'ai envie de faire, c'est que la compagnie qu'on a montée et le collectif avec lequel je travaille, c'est ça qu'on tient à préserver aujourd'hui. Et pour le préserver, parce que c'est un exemple très concret, moi je vois les gens qui bossent avec nous, et bien il y a des gens qui m'ont dit à un moment donné, Cyril, on ne peut pas continuer parce que moi on m'appelle à tel endroit, j'ai un plan, un contrat à tel endroit, j'ai un contrat, et que bon, ben, il faut aussi vivre. Et ce qui est arrivé là, c'est tous ces gens qui sont avec nous là, cette compagnie-là, c'est des gens qui font beaucoup de sacrifices au nom d'une valeur que nous on s'est mis au milieu, cette idée de collectif, de dire bah écoutez, on va faire un trajet ensemble, peu importe les intempéries, on va la faire. Maintenant, c'est vrai que on s'en rend compte et on l'a vu avec Vincent et cette année un petit peu, combien ça peut être très agréable que des gens nous laissent la parole et nous donnent les moyens de le faire. Et c'est quelque chose qui est vers laquelle on a envie de tendre, nous, et qui est quelque part, je crois aussi, quelque chose de légitime, il me semble, en tous les cas. Donc oui, bien sûr qu'on va essayer de continuer à garder notre indépendance, parce que c'est quand même important de se préserver, et en même temps, de pouvoir collaborer avec des gens, et de pouvoir échanger, parce que, je veux revenir à ça, il n'y a pas de marge, enfin, le bien, le mal, le noir, le blanc, la marge, l'institution. J'ai la sensation qu'on a deux hémisphères du cerveau et donc on quantifie tout par quelque chose de binaire, alors que ça me semble plus complexe que ça. C'est en fonction de la situation, en fonction du moment présent, et voilà, je crois que oui, on a envie de continuer. Pour ça, ben il faut des moyens, bien sûr, et puis il faut aussi que nous, on ne perde pas le propos qu'on a depuis le départ. C'est ce que je disais tout à l'heure. On met du temps encore et rien n'est acquis. Mais en tout cas, je remercie le temps que nous, on a passé ensemble avec cette équipe où on avait zéro franc et on continue à bosser, on croit en deux, trois trucs. Et c'est ça aussi qui fait que le jour où on a un peu d'argent, on sait peut-être un peu mieux s'en servir. À un moment donné, même si on est jeune, on apprécie ces moments-là où on est aidé. Et donc, on a tendance à beaucoup, entre nous, on en parlait... À tout miser sur la création à chaque fois. Voilà.
Merci. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, j'ai deux petites questions, s'il vous plaît. Si j'ai bien entendu... Je ne sais pas s'il y a de l'écho, là. Ça va. Si j'ai bien entendu, j'ai suivi l'ensemble du débat, là. Il me semble que vous avez surtout discuté de problèmes de fonctionnement et de production. On a entendu parler de processus, beaucoup, beaucoup parler de moyens, de budget, etc. Alors, je ne veux pas être mauvaise langue, mais j'ai un peu l'impression que plus les gens ont de moyens... Enfin, quand les gens ont des moyens, on les entend rarement se plaindre d'en avoir trop, ça c'est sûr. Mais bon, vous avez surtout parlé de moyens, un peu aussi de programmation, etc. Mais dans ce débat consacré à institutions, centres et marges, deux choses qui me semblent vous n'avez pas développées, c'est, mais il faut dire qu'elles ne sont pas faciles à développer, le rapport de l'institution au public, quel est selon vous aujourd'hui le rôle, pas uniquement de l'institution, mais des gens qui sont dans l'institution par rapport au public, et même on devrait dire au non-public, et plus généralement, la place de l'institution théâtrale dans la société, quel est le rôle de l'institution et plus largement du théâtre, le rôle de l'institution vis-à-vis du théâtre et du théâtre dans la société. Je sais que c'est une question qui est tentaculaire et que c'est pas dans un débat qu'on peut la poser, mais enfin, comme vous avez parlé que de moyens, je crois quand même qu'il faut l'aborder. Et puis l'autre question remarque, alors c'est un peu peut-être naïf, voire iconoclaste, mais dans ce débat sur un centre et marge, est-ce que vous avez eu l'idée de faire venir à la table des personnes du HOF, institution centre marge? Pourquoi ne pas aborder cette question bientôt en fin de festival? Alors je sais, c'est peut-être naïf, hein, peut-être que d'ailleurs dans l'autre sens les gens ne seraient pas d'accord, mais il y a quand même, c'est bien de parler d'institution, mais j'ai l'impression que plus on pense l'institution, plus il y a une sorte d'attirance à penser l'institution. C'est un peu comme si c'était un trou noir. Et si on est dans l'institution, il faut quand même essayer de penser ce qui n'est pas institutionnel. Et M. Georges Bannul a soulevé la question à un moment donné, mais vous n'avez pas beaucoup rebondi dessus. Voilà un peu mes deux questions-remarques.
Moi, j'aimerais bien répondre aux premières questions, mais toi, peut-être...
Moi, je répondrai à la première et à la deuxième.
Ah, voilà. Mais commence. Vincent, si tu veux commencer. Au moment où vous êtes intervenu sur ce débat, je voulais rajouter exactement une pensée sur la question du public. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire du festival Ruhrfestspiele Recklinghausen, où Frank Castorf était le directeur cette année, et il y avait une grande crise du public, notamment. Alors, je crois que c'est ce qu'on a vécu ici les dernières trois semaines presque. C'est surtout, et c'est pas pour faire de plaisanterie, mais c'est surtout grâce au public, parce que moi, je pourrais m'imaginer aussi quelque chose différemment, dans le sens que la programmation est un peu audacieuse et que la réponse du public aurait pu être aussi qu'il ne vient pas. Mais j'ai vécu un si grand... ouverture du part du public qui a peut-être à voir avec le fait que le public ici a une grande tradition, une longue histoire, mais quand même, c'était aussi le cas pour le public de la Schaubühne, mais moi, je n'ai pas attendu un si grand nombre de gens qui viennent et qui sont ouverts aux propos artistiques. Alors, l'expérience du festival, c'est surtout une expérience avec un public ouvert à ses propos. Mais, pour répondre à votre question, je ne crois pas qu'avant, on peut traiter cette question du public dans la façon qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du public. On a pris toutes les décisions qu'on a faites pour la programmation étaient des choix artistiques et on a pas pensé au public dans le sens qu'est-ce qu'il faut pour remplir la salle. Mais ça a fonctionné quand même. Et ça parle et ça raconte beaucoup de l'intelligence du public qui est dans la plupart du temps des metteurs en scène et de gens professionnels, journalistes, qui est sous-estimé la plupart du temps du côté des professionnels. Voilà.
Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé au début. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir parlé de subventions, d'argent ou de choses comme ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur comment on a réfléchi pour inventer notre festival d'Avignon avec Hortense Archambault, c'est d'abord à partir du public, à partir du comportement spécifique du public. Donc la base de notre réflexion, la base de notre projet, c'est le rapport du festival au public. Ensuite, comme vient de le dire Thomas, penser au public, c'est pas penser recette, c'est pas dire voilà, on va prendre un acteur très connu, puis après on va inventer un projet auto pour faire venir du monde. Je crois qu'on a plutôt dit voilà, quelle est l'aventure pour le public à Avignon? C'est-à-dire découvrir profondément une œuvre, faire un parcours à travers l'histoire de Ludovic Lagarde et Olivier Cadiot sur 3 spectacles, finir, et vous viendrez nombreux au grand concert d'Olivier, qui commencera par une lecture d'Olivier Cadiot, qui se finira par un concert de Rodolphe Burger, mis en espace par Ludovic dans la cour d'honneur le 27, et d'offrir comme ça tout un parcours, par exemple, pour le spectateur, à travers le festival, à travers une œuvre. Donc vraiment, le public est toujours au cœur de notre réflexion, au cœur de notre projet, en y proposant la façon la plus forte, la plus bouleversante de rencontrer une œuvre artistique. L'autre chose par rapport, quand vous faites un parallèle qui me semble pas tout à fait juste, entre la marge et le centre, le in et le off. Il n'y a pas une catégorie, il n'y a pas le off, les gueux, et le in, le nanti. Je crois qu'on n'est pas, on fait pas un début de sa carrière dans le off et un jour on arrive dans le in comme une espèce de consacration. Je crois qu'au contraire, pas au contraire, je crois que la grande différence entre le off et le Festival d'Avignon, que certains appellent in, c'est un projet artistique. C'est-à-dire qu'on a réfléchi, pour moi une programmation c'est un puzzle, inspiré par l'artiste associé, inspiré par ses questionnements, et on essaye de composer un puzzle, une aventure artistique. Et que tout d'un coup, un artiste, une équipe artistique devient nécessaire dans ce puzzle, et c'est pour ça qu'elle est là. C'est pas une médaille du mérite de venir au Festival d'Avignon. Je crois qu'il y a aussi l'idée du service public de la culture. Je disais tout à l'heure, le service public de la culture, c'est ces subventions publiques qui permettent aux artistes de prendre des risques, de rechercher de nouveaux langages, de nouvelles formes. Et je crois que la responsabilité de l'institution, dans le mot qu'on utilisait tout à l'heure, c'est d'ouvrir à toutes les formes, d'ouvrir à tous les langages et de partager ces nouvelles formes, partager ces nouveaux langages avec le plus large nombre de spectateurs possibles. Et comme vient de le dire Thomas, certains de mauvaise langue, je ne sais pas si certains étaient là au masque et la plume du début du festival, où quelques critiques grincheux nous disaient qu'on allait tuer le festival, que cette chose était élitiste, était austère. Elle était un peu austère meilleure, mais elle n'était pas austère du tout. Bon, allez, il fallait la faire une fois et la fin du festival était arrivée bientôt. Mais, et que effectivement, la plus belle, non, là où nous sommes extrêmement contents, c'est que ces nouvelles formes, ces nouveaux langages artistiques, le public y a répondu de façon formidable. Les salles étaient pleines, et que ce soit pour Rodrigo Garcia, Jan Lowers, pour Per Gunt ou Wojciech, les salles étaient pleines, et je crois que là, il y a une vraie réponse, une vraie curiosité du public, une vraie exigence du public, qu'on soit initié ou pas initié. D'ailleurs, dans les salles de la Cour d'honneur, dans les salles, dans le public qui assistait à Wojciech, c'était vraiment un public extrêmement mélangé. Et je crois que là, les gens ont réagi, chacun à sa façon, à ces propositions. Donc je crois que la marge et le centre se posent pas la question in et off, parce que c'est pas du tout la même logique dans la construction d'un programme et dans le pourquoi les compagnies viennent. Dans le off, sont des démarches individuelles, une démarche d'une compagnie qui dit ben voilà, je veux rencontrer du public, je veux jouer et je viens à Avignon parce qu'il y a du public, et c'est une démarche que je trouve tout à fait louable et tout à fait positive. D'un autre côté, il y a le festival où on dit voilà, dans ce projet artistique du Festival d'Avignon, ce serait bien que Cyril Test, Ludovic, Charles et Thomas soient là, et c'est pour ça qu'ils sont là, et c'est pas parce que Cyril Test ne dirige pas un centre dramatique, et c'est pas parce qu'il a fait, il n'a fait que 3 ou 4 spectacles, et il est quand même là avec nous. Charles Torgeman en a fait un peu plus et il est là aussi. Je crois que c'est important qu'ils soient là ensemble, et c'est voilà, c'est pas une médaille du mérite de venir au Festival d'Avignon. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, bonjour. Moi, j'habite à Avignon. Je voudrais remercier Vincent Baudrier et Hortense Archambault pour avoir commencé à mettre en place les bases d'une réflexion sur un théâtre qui soit vraiment populaire. Premièrement, vous avez décentralisé la direction du Festival Serre Avignon et associé la population à la préparation de certains spectacles par des lectures et discussions avec les acteurs et metteurs en scène. Et deuxièmement, le premier festival qui a servi à l'ouverture du Festival d'Avignon a été un spectacle de rue, Complexe Capharnaüm, qui a associé directement